Vous êtes bien sur Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes, avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. Pour ce mois de mai, je vais parler de renaissance, au pluriel, renaissance douloureuse de la vérité, selon Agnès Martin-Lugan, selon L'Oque noire de Peter May, Le fil de nos vies d'Alexandre Marcel, Les amants de la France libre de Jean-Yves Pitoun, Requiem pour la Dame Blanche d'Eric Fouassier et Le jardin anglais de Charles Wright. Mais il y aura aussi, je pense, La mort en héritage de Luc Charine. Des lectures captivantes aux nombreux rebondissements inquiétants. Alors je commence par le premier, Les renaissances, au pluriel, d'Agnès Martin-Lugan, qui vient de paraître chez Michel Lafond. Pour moi, Agnès Martin-Lugan est une grande romancière que j'ai déjà présentée dans cette émission. Qui met, ici, c'est un nouveau roman qui met en scène la rivalité qui existait entre deux demi-frères, des cousins, pendant leur enfance. Ils habitaient l'un et l'autre dans une maison, chacun dans une maison, mais qui était très proche, une maison qui appartenait à leurs parents. Donc il y a bien encore, voilà. Alors il y a Lino, le narrateur de cette aventure haute en couleurs, et Alban, son cousin plus timoré. Et il y a une rencontre décisive entre Lino et Rebecca. Rebecca, journaliste, mariée, donc un mari, deux enfants, des jumeaux, adolescents qu'elle aime et qu'il aime. Et ils se sont rencontrés, Lino et Rebecca, à la faveur du comptoir d'un bistrot et du hasard, le hasard qui fait bien de bonnes choses. On va le comprendre dans la suite de l'histoire. Rebecca est une romancière en mal d'inspiration, qui voit sa vie, même animée, lui échapper. Elle a donc, je l'ai dit, un mari, des enfants, mais donc elle n'a plus son métier puisqu'elle est en mal d'inspiration. En tant que femme indépendante, elle se sent délaissée. Et elle rencontre Lino. Lino qui est devenu un artisan passionné d'histoire de l'art, des meubles, en particulier des meubles, qu'il restaure avec beaucoup de soin. Mais il est rongé par son passé et sa quête d'absolu. Il a vécu à un moment donné en Italie, où il a rencontré Constance, et dans sa quête d'absolu, il l'a aimée à la folie. Ils se sont aimés, mais le temps est passé. Il a dû revenir en France, retrouver sa mère. Mais en fait, c'est Alban. Alban que Constance va rencontrer et épouser. D'où la rivalité presque meurtrière entre ces deux hommes. Enclin aux confidences, Lino, lorsqu'il rencontre par hasard Rebecca, se livre à Rebecca avant de disparaître dans la nuit parce qu'il comprend qu'il ne peut plus rien faire, plus récupérer Constance et qu'il est malheureux et qu'il se donne à son métier de restaurateur de meubles anciens. Et Rebecca, fascinée par son histoire, se lance sur ses traces, que ce soit en France, où il a vécu longtemps, et en Italie, où il a été formé pour cet art particulier, avec un personnage important, mais qui, semble-t-il, l'a rejeté. Mais c'est pourtant ce personnage qui l'a formé. Avec le projet fou, Constance, Rebecca a le projet fou de faire de lui le héros de son prochain roman, avec toute la psychologie qui caractérise le style de Agnès Martin-Lugan, qui fait vraiment de ces deux vies des renaissances à Venise. Donc on revient à Venise, où ils vont vraiment pouvoir s'aimer totalement, oubliant le passé tumultueux de un et de l'autre, parce que elle, son mari se sépare d'elle, va avec une autre femme. Bon, elle voit toujours ses enfants parce qu'ils s'adorent, mais donc elle a besoin d'une renaissance, et c'est avec Lino qu'elle va trouver cette renaissance à Venise. Voilà pour ce premier grand roman, Les Renaissances d'Agnès Martin-Lugan chez Michel Lafon. Le deuxième livre est un roman noir, mais important. C'est Le Loch Noir de Peter May, le grand Peter May, qui revient, c'est une renaissance un petit peu pour lui, au Rouergue noir. Avec ce nouveau roman percutant, Peter May revient sur l'île de Lewis, une référence pour lui. On retrouve le corps d'une jeune femme, jeune fille même, parce qu'elle a une vingtaine d'années, qui s'appelle Kathleen Black. Elle est retrouvée à l'embouchure de Dan Loch Dub sur le Loch Noir, d'où le titre de cette enquête magistrale sur la côte ouest de l'île de Lewis. La jeune femme est une habituée des sujets sur l'environnement qui la captive, mais c'est aussi une nageuse émérite. Donc elle allait dans l'eau, elle plongeait dans l'eau, et on la retrouve assassinée. Mais même une enquête est faite, elle était violée, battue, avant d'être assassinée. Lorsque Fiona Lagg, le fils qu'il a eu de Marcelli, est accusé du crime, le personnage principal, central, qui s'appelle Finn McLeod, plaque son boulot à la police de Glasgow et s'envole aussitôt vers sa terre d'enfance. C'est là que ce roman est vraiment captivant, parce que il va revenir sur sa terre d'enfance et retrouver des gens qu'il a connus quand il a vécu sur cette terre d'enfance. Il l'a quitté 10 ans plus tôt pour vivre librement son amour pour Marsali. Donc, il y a beaucoup d'amour dans ces romans. Mais comment disculper son fils alors que l'épreuve l'accable, qu'il semble lui-même se sentir coupable? Alors donc une enquête est menée parce que on comprend que lui, Fionnlagh, était un homme marié, professeur, qu'il a une femme, des enfants. Et pourquoi a-t-il eu une liaison avec cette jeune fille, jeune étudiante, Kathleen Black? Et ils se sont, paraît-il, disputés avant qu'elle ne bascule dans l'eau, dans la mer, et qu'elle meure assassinée. Donc beaucoup de mystères qui seront élucidés par Finn McLeod et puis un ancien policier qui se trouve là et qui va l'aider. Mais comment, voilà, mais il faut donc renouer avec les Hébrides alors que les baleines s'échouent sur les plages. Donc, il y a la mort de ces baleines. Et puis, il y a une sorte de pêche bizarre, un troc concernant les saumons qui sont élevés par là ou surélevés, question qui se pose. Alors, comment faire face aux ombres qui remontent du passé ? Je ne vous dévoile pas le nom du meurtrier, car il y a bien un meurtrier autre que Fionnlagh. Et donc, vous découvrirez dans cette enquête magistrale les ombres qui remontent du passé dans ce jeu de faux semblants. Finn McLeod va devoir traverser les mensonges et les secrets des hommes, où tout s'en mêle avec les natifs de cette île. C'est du grand art, ça je peux vous l'affirmer, de Peter May, avec les cruautés de l'océan, qui ne pardonne ni aux imprudents, ni aux téméraires, et s'il le faut, eh bien, affronter la mort. Et c'est bien ce qui va être fait dans ce roman. Avec ce roman poignant, Peter May redonne vie au héros emblématique. Oui, ce personnage de Finn McLeod avait déjà vécu dans les précédents romans. Donc, redonne vie au héros emblématique qui a bouleversé des millions de lecteurs à travers le monde et nous prendre à nouveau au cœur, dans l'abîme du Loch Noir où il se passe des choses terribles. Donc, c'est à lire absolument ce roman de Peter May, Loch Noir, qui vient de paraître au Rouergue Noir. Pour changer un petit peu de sujet moins grave d'un roman policier, je parle d'un troisième livre, roman, Le fil de nos vies, c'est de Alexandre Marcel, qui vient de paraître chez Michel Lafon, et je remercie la diffusion Gilles Paris, par qui j'ai reçu ce livre un peu étonnant, qui traite de la mode, mais avec beaucoup de force. Voilà, Le fil de nos vies, un jeu de mots sur le titre, Le fil de nos vies. Chaque rêve a un prix, et c'est ce qu'on va voir dans ce beau roman, Le fil de nos vies d'Alexandre Marcel. Quittant son sud natal, Léo, le personnage central de ce roman, a 20 ans. Et il monte à Paris avec un rêve, celui de devenir styliste de mode. J'ai déjà parlé avant d'une couturière qui va devenir une grande femme de la couture. Et ça m'avait beaucoup plu. Mais ici, donc, il s'agit d'un styliste de mode, quelqu'un qui dessine. Dans ses bagages, Léo a l'amour absolu de sa mère, qui croyait en son destin, par rapport à son père, qui était plus sportif, plus... voilà, qui était vraiment différent, mais qui va quand même aimer son fils. Même si son fils était différent de lui et plus proche de sa mère. Et il a son carnet de croquis, des croquis nombreux, parce que dans le salon de coiffure de sa mère, un salon de haute coiffure de sa mère, un salon prestigieux, eh bien, il était là, gosse, et il dessinait sans arrêt, avec vivacité, tout ce qu'il voyait, qu'il avait envie de croquer. Les femmes qui se faisaient coiffer, leurs vêtements, leurs attitudes, voilà. Et un carnet de croquis dont il ne se sépare jamais. Alors, il monte à Paris. Et repéré, il sera repéré par un célèbre couturier qui travaille chez Arthur K., une grande maison de couture, Arthur K. Comme il avait son carnet de dessin, le célèbre couturier voit ce dessin et il trouve qu'il y a quelque chose à soutenir et il est propulsé sur le devant de la scène. Alors, est-ce que c'est un rêve éveillé dans le monde de la mode, avec le courage de trois femmes ? Sa mère, j'en ai déjà parlé, mais il y a aussi une jeune femme, Lucie, qu'il a rencontrée chez un ami, Alexis, et ils ont une tendresse l'un pour l'autre, et elle croit à son rêve. Et donc, elle le pousse à réaliser son rêve, à monter à Paris. Et puis, il y a Manon, une troisième femme, jeune femme qui deviendra son grand amour. Et ce sont les trois qui, le poussant, vont lui permettre d'atteindre son rêve. Un rêve éveillé, donc qui a l'air de se mettre en place, jusqu'au jour où il assiste à l'impensable au cours d'une animation. Voilà, tout le monde, on se retrouve, on boit, et puis il y a un jardin. Et dans le jardin, il assiste discrètement, mais il assiste quand même à l'impensable, au viol d'un mannequin, parce qu'il y a trois mannequins dans cette histoire, des mannequins un peu différents l'un des autres, mais Manon, oui, deviendra, est un mannequin distingué, ils vont s'aimer. Elle ne peut accepter, savoir, il a assisté donc à un viol d'un mannequin qui se refusait au grand couturier, mais celui-ci l'a violée. Léo doit donc faire face à un choix déchirant, soit sacrifier ses principes moraux d'une bonne éducation pour sauver la réputation de cette maison de couture, par un scandale, donc se taire, savoir et se taire. Mais aussi rester fidèle à lui-même au risque de tout perdre. Heureusement, le sort va l'entraîner, il va aller voir le directeur et avec Manon, il réussira, haut le fil, à atteindre donc son but et devenir à la place du couturier un grand roi de la mode. Voilà pour ce roman perspicace, bien fait, sur le fil de nos vies, de Alexandre Marcel, paru chez Michel Lafon. Et puis je parle maintenant d'un grand quatrième livre avec un titre important, prémonitoire, puisqu'on a fêté il n'y a pas si longtemps, le 8 mai 1945, 80 ans. Cette œuvre est une fiction, mais c'est aussi un témoignage. Voilà pourquoi ce titre, Les amants de la France libre, les amants au pluriel de la France libre, qui mêle victimes et bourreaux dans une réalité historique décrite par les experts, comme Raymond Aron ou d'autres. Donc avant Jean-Yves Pitoun, qui raconte cette histoire terrible, Les amants de la France libre, un livre qui vient de paraître chez Albin Michel, que je remercie pour ce témoignage extraordinaire. Pour un premier roman sur la guerre de 1942 à 1944, c'est un exploit de Jean-Yves Pitoun, en y positionnant trois personnages dans ce récit haut en couleur, et c'est à la vie et à la mort, dans la France occupée par l'armée allemande. Ce qui est remarquable, c'est qu'il semble tout dire sur cette guerre civile ô combien meurtrière. Le premier personnage, c'est Jeannine, une jeune veuve de guerre. Ensuite, il y a Robert, le père de l'auteur. Oui, tout juste 20 ans, il a fui ces montagnes de Kabylie pour rejoindre la résistance, après avoir assisté au débarquement des Américains en Afrique du Nord, ce qui permet à Jean-Yves Pitoun de parler de cet épisode-là en 1942 qui va changer beaucoup de choses en France comme en Afrique du Nord. Et puis il y a Mac, le troisième personnage, qui est un pilote américain engagé dans la RAF, la célèbre compagnie d'aviation anglaise, qui a miraculeusement survécu aux tirs allemands. Son avion a été descendu, mais il a pu sauter en parachute et arriver en France. Et il ne sera pas le seul qui, de France, en passant par l'Espagne, grâce à la filière. Ça, c'est une chose dont je n'avais pas entendu parler dans les précédents romans, dont de la résistance et des maquis, oui, mais de la filière, afin de continuer la guerre et les bombardements en passant par l'Espagne. Continuer la guerre et les bombardements sur l'Allemagne depuis l'Angleterre. Mais le destin de Mac va changer. C'est pour ça qu'il va devoir faire autre chose que de repartir en Angleterre. Il va rester en France et devenir l'ami de Jeannine, de Robert. Donc, l'histoire de ce roman, Les amants de la France libre, c'est une histoire aussi d'une femme et de deux hommes qui vont se rencontrer, qui vont s'entraider magistralement et qui nous entraînent dans le dangereux tourbillon de la Seconde Guerre mondiale. On va de l'Algérie à Londres en passant par les héros clandestins de Toulouse et du Pays Basque. Et dans le feu des passions et du combat, on retrouve la résistance face aux Allemands, à la Gestapo et aux collaborateurs fascistes. Donc ils font face à l'ennemi et aux tortures, car il y aura des arrestations et des tortures. Et si leur destin s'écrit en lettres de sang, la puissance de l'amour et de l'amitié à la vie et à la mort, c'est cela qui est formidable dans ce livre, c'est la puissance de l'amour et de l'amitié à la vie et à la mort, avec les arrestations et le camp de la mort. Robert sera arrêté, mis dans un camp, et Mike va pouvoir aller jusque là-bas et le sortir de ce camp avant qu'il ne soit trop tard. Tout cela va leur donner la force de le braver, ce destin exceptionnel, avec des arrestations, des prisons, Drancy et d'autres. Tous les lieux sont bien décrits. Un roman est Fresnes, voilà la prison de Fresnes, qui me rappelle quelque chose. Un roman poignant, qui prend la forme d'un hommage, car Jean-Yves Pitoun s'est inspiré de l'histoire de son père, qui vécut heureusement longtemps, puisqu'il reviendra d'un camp de concentration, d'un camp. Il sera restauré doucement parce qu'il était très maigre, mais il va survivre. Et il va se remarier, partir en Amérique et raconter à son père, à son fils, tout un témoignage que ce fils va pouvoir restituer. Donc, grâce à Jean-Yves Pitoun, s'est inspiré de l'histoire de son père et de ses camarades pour redonner vie à ces héros de l'ombre qui se sont battus pour la France libre. Voilà donc un grand roman pour fêter le 80e anniversaire de la libération, de la fin de la guerre, Les Amants de la France libre, de Jean-Yves Pitoun, qui vient de paraître chez Albin Michel, et on fait une pause musicale. Voilà, une belle musique. J'ai choisi cette musique de Wolfgang Amadeus Mozart, la sonate pour piano numéro K280, interprétée ici par la malicieuse Maria João Pires. Vous savez que je la vénère depuis longtemps. Un presto, voilà. Pour changer un petit peu, vous divertir avec ce presto. Alors, je vais parler d'un livre important aussi, Requiem, intitulé Requiem pour la Dame Blanche. C'est de Éric Fouassier et ça vient de paraître chez Albin Michel. Un roman mystérieux qui commence sur le front de la Somme et l'on sait qu'il fut terrible. Nous sommes, par ce livre, portés à l'automne 1916. Donc je reviens sur la Première Guerre mondiale. Alors que les soldats succombent par milliers dans les tranchées. La mort frappe de façon plus singulière ailleurs, mais avec tout autant de cruauté. C'est en même temps, mais c'est ailleurs, ce n'est plus sur les tranchées. On revient un petit peu vers Arras, vers... C'est d'abord une chanteuse célèbre d'avant-guerre, intitulée La Dame Blanche, d'où le titre Requiem pour la Dame Blanche. Soupçonnée d'espionnage, elle a été vraiment célèbre chanteuse dans les cabarets et puis elle a décidé de partir en croisière pour animer des croisières. Mais là, elle revient sur sa terre, la maison qu'elle habitait, et elle est soupçonnée d'espionnage, une sorte de Matahari, mais est-ce que c'est possible? En tout cas, elle sera sommairement exécutée par des justiciers improvisés. Voilà, 6 personnages qui vont décider de sa vie ou de sa mort, mais plutôt de sa mort. C'est ensuite Albert Saul, un as de l'aviation française, retrouvé mystérieusement poignardé, oui, je dis bien poignardé, par une baïonnette allemande au retour d'une mission aérienne avec des roses rouges répandues dans le cockpit de son appareil. Donc voilà 2 grands mystères qu'il faudra résoudre, comprendre. Et 15 ans plus tard, 6 personnages se retrouvent invités, étroitement liés, ils sont étroitement liés à ces 2 événements, ils se retrouvent réunis à nouveau par l'un d'entre eux qui s'appelle Georges Saint-Léger, qui soi-disant appartenait au deuxième bureau. Ils sont réunis dans une bâtisse, dans un huis clos oppressant, derrière les murs d'une grande maison isolée et bloquée par la neige. La neige qui tempête beaucoup, beaucoup de neige, épaisse tempête. Ce qui fait qu'à un moment donné, 2 personnages veulent partir à la recherche de la police et ils ne peuvent pas y aller parce qu'ils seront empêchés par la neige et par un personnage qui va, semble-t-il, leur tirer dessus. Ils vont devoir affronter le poids du passé et leur propre démon du passé. Il y aura même deux morts suspectes. Et comme le dit Éric Fouassier, l'auteur de ce roman envahissant, Éric Fouassier, parmi les six hommes réunis, il y aura deux morts suspectes. Et selon une expression de John Dixon Carr, Éric Fouassier dit « J'aime que l'on me plonge dans une atmosphère baroque. J'aime que l'imagination jaillisse de l'intrigue. Je me fiche pas mal d'y entendre les échos de la vie quotidienne. Et c'est bien ce qui se déroule sous nos yeux dans cette aventure baroque et captivante. » Heureusement, il y a l'un des personnages qui s'appelle Florimond et qui est un détective soi-disant nonchalant par Georges Saint-Léger qui l'a un peu méprisé. À son dépens, heureusement, parce que c'est grâce à ce Florimond que l'on parviendra à élucider tous ces mystères qui sont bien des assassinats. Une belle surprise inattendue au final de ce récit entre un homme, Florimond, c'est lui, et une femme, Yvonne, je vous dis juste le nom, mais vous découvrirez ce personnage d'Yvonne, bien vivant à la fin de cette aventure terrible. Ça aussi, c'est un livre, un roman, Requiem pour la Dame Blanche, de Éric Fouassier, qu'il faut rencontrer par ce livre, paru chez Albin Michel, à lire aussi absolument. Je parle maintenant d'un livre aussi original et fort attachant. Ça s'appelle « Le jardin anglais ». Vous savez comment sont ces jardins anglais, tout verts et bien tondus. Eh bien, c'est le cas de ce jardin anglais de Charles Wright, qui vient de paraître également chez Albin Michel. Cet auteur qui a une double origine, corrézienne et anglaise par son père. Son père qui a rencontré sa mère et qui a décidé d'opter de vivre en France et d'opter pour la nationalité française. Alors entre le père et le fils, il y a beaucoup de vagues, hein, de choses qui ne sont pas dites. Et donc, Charles Wright se dit que les pères ne sont pas éternels. Un jour, le mien rendrait l'âme. Et cette pensée l'inquiétait, car qu'allais-je bien pouvoir raconter de cet homme le jour de ses funérailles ? À 40 ans, je ne savais rien ou presque de l'illustre inconnu qui m'avait donné la vie. Si ce n'est qu'une part de ces mystères se cachait en Angleterre. Il était temps d'aller voir de l'autre côté de la Manche. C'est pour ça que ce jardin anglais de Charles Wright est vraiment très attachant, très intéressant. Une fois encore, tout allait se régler par le voyage. En effet, le jardin anglais, différent de celui à la française, toujours vert, et le récit, le jardin anglais, ce texte, et le récit de cette virée sur l'île Blanche, enchantée, hein, une île enchantée. Et pendant 3 semaines, de Suffolk à Hampshire, le narrateur et son père escorté par l'attachante tante Harriet, qui, elle, a du langage et qui décrit ce qu'elle voit et qui va parler des ancêtres, de ce qu'elle a connu. Alors que son père est plutôt mutique, voilà. Et ils se sont lancés sur les routes à la recherche inquiète et joyeuse de leurs origines. Donc on fait le tour des parents et grands-parents. On va de maison victorienne en cimetière des Beatles, puisque c'est dans les années 1950, et son père était un fan des Beatles, à Shakespeare. Ils ont tourné les pages du roman familial et exhumé des secrets, donné un visage à tous ces ancêtres oubliés qui avaient fait venir la vie jusqu'à eux. Déclaration d'amour pudique d'un père, d'un fils pour son père et vice-versa. Portrait impressionniste de l'Angleterre éternelle. Le jardin anglais est aussi une méditation très importante, une méditation littéraire et spirituelle. Oui, on apprend, l'auteur Charles Wagner donne son nom, d'où il vient son nom, mais on apprend aussi beaucoup de choses sur les Anglais, le style anglais, l'Angleterre, les villes, les pays que l'on visite dans cette virée. Donc une méditation littéraire et spirituelle sur ce qui fait vivre, aimer et mourir en France comme en Angleterre. Donc c'était un beau, beau livre que ce texte que je vous présente, Le jardin anglais de Charles Wright, qui vient de paraître chez Albin Michel. Alors j'avais gardé un autre livre qui s'appelle « La mort en héritage » de Luc Charine par Estellas Édition. C'est un sorte de livre de poche qui coûte 12,90, donc il ne faut pas en priver. C'est vrai que Luc Charine, de son vrai nom, Jean-Luc Charin, un nom de chez nous, revient avec « La mort en héritage ». Donc c'est un titre pas très... Il n'y a pas beaucoup de restauration, il y a plus de destruction que de restauration dans ce titre « La mort en héritage ». Mais j'avais envie, je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps, et j'avais envie de vous parler de « La mort en héritage » de Luc Charine, ancien élève du lycée Lalande. Après une carrière professionnelle au Gabon et à La Réunion, l'auteur a rejoint ses pays de l'Inde natale à l'heure de la retraite. Et ce roman évoque justement les lieux qui ont jalonné son parcours et qui l'ont fait grandir. Son personnage central, c'est un détective privé à Bourg-en-Bresse, il s'appelle Robert Numa. Et il est chargé par une veuve de prouver que son mari ne s'est pas suicidé alors qu'on l'a tué. Mais elle veut qu'on prouve qu'il ne s'est pas suicidé afin de lui permettre de percevoir le capital d'une assurance vie. Donc l'intrigue est presque banal, sauf qu'on va découvrir que cette veuve est peut-être une sorte de veuve joyeuse. Voilà. Il faudra s'en méfier. L'enquête donc va mener Robert Numa au Gabon, voilà, que l'auteur connaît bien, et à La Réunion, et s'achèvera dans un manoir du Haut-Bugey, où réside une châtelaine, elle aussi sulfureuse. Alors voilà, on va d'accident surprenant en suicide suspect. Il reviendra en Bresse, Robert Numa, avec plus de questions que de réponses, dans une enquête peuplée d'autant de veuves noires que de mantes religieuses, avides d'un héritage conséquent, pour lequel elles n'y entreront pas à tuer. Avec la mort en ligne de mire, Numa, oui, parce que il sera en ligne de mire, ce Numa. Et aussi, va très vite comprendre qu'il ne peut faire confiance à personne, surtout à une personne du Gabon, qui voudrait bien aussi sa part d'héritage. Voilà, c'est un roman terrible à sa manière que je vous propose de lire quand même, parce qu'il se lit très bien, « La mort en héritage » de Luc Charine, Estella Édition. Voilà. Alors, il me reste encore quelques minutes. Je dois vous parler d'un livre que je suis en train de lire de Franck Tilliez, À retardement, paru au Fleuve Noir. C'est un récit, il s'est inspiré, Franck Tilliez, qui est un grand romancier contemporain, qui écrit plutôt des romans policiers, il s'est inspiré de la lecture de l'histoire de la folie à l'âge classique de Michel Foucault. On parle donc de cette histoire, de ce livre terrible, À retardement. La victoire n'est ni à Dieu ni au diable, elle est à la folie. Donc il met en scène cette histoire de la folie. Et c'est, je peux vous dire, terrible. Donc ça se passe en partie dans une unité pour malades difficiles de Chambly, qui s'appelle Ulysse. Un nouveau patient est accueilli, délirant sans papier, inapte à la garde à vue. Celui-ci a poussé sans raison un passager sur les rails et prétend fuir des vers. Voilà, on parle de vers. Il entend des voix, ce personnage. Il est menacé par des vers. Et on découvre chez une victime un ténia qui était dans son ventre, très long. Donc on trouve des choses vraiment bizarres, étranges, qui exercent la folie. Et puis Seine-Saint-Denis, à 50 km de là, on a Charcot, un policier, et son équipe qui découvrent le corps d'un quinquagénaire sauvagement assassiné près de son lit. Chez lui, aucune empreinte digitale ni trace ADN, pas même les siennes. Qui sont ces deux hommes et quelles sont leurs histoires? Eh bien, parce que cet homme qui a changé d'identité, en fait, c'était supprimer les empreintes de ses doigts, de ses mains, pour laisser nulle trace, nulle entraîne, et qu'on le retrouve. Eh bien, ça, de ce livre, Franck Tilliez, À retardement, au fleuve noir. Je vous en parlerai la fois prochaine, au mois de juin, voilà. Et je vous dis au revoir, à bientôt. Donc, toutes ces lectures qui sont importantes avec, je reprends quand même les titres que je vous redonne pour ce mois de mai, donc Renaissance au pluriel d'Agnès Martin-Lugan chez Michel Lafon, L'Ocre noir du magistral Peter May au Rouergue, Le fils de nos vies d'Alexandre Marcel, Le fil de nos vies d'Alexandre Marcel, Les amants de la France libre, oui, pour fêter, si on peut dire, pour retrouver un très beau titre, pour retrouver cette guerre, cette deuxième guerre mondiale, en France en particulier, guerre civile en France, de Jean-Yves Pitoun, Requiem pour la Dame Blanche, un livre baroque de Éric Fouassier. Mais on découvre beaucoup de choses dedans. Vous verrez, il y a des mystères qui s'élèvent. Et Le jardin anglais de Charles Wright, chez Albin Michel, des lectures captivantes aux nombreux rebondissements inquiétants. Voilà, je vous laisse là-dessus. Bonne lecture, et puis à bientôt, donc au mois de juin. Vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire.